Bonsoir mes frères et sœurs. Oui, apprends-moi. Vous êtes ici, nous sommes ici pour apprendre. Il y a des chrétiens qui apprennent et il y en a qui apprennent rien. Ils entendent la parole, comme on l'a vu dimanche, mais ils n'arrivent jamais à découvrir ce repos, cette grâce, ce bon combat. C'est quelque chose de terrible. Nous allons continuer le partage de dimanche matin. Nous allons faire une lecture d'un titre, chapitre 2. Au chapitre 2, au verset 11, 12 à 14. Nous allons lire ces quatre versets pour nous rappeler qu'on honore la doctrine. C'est le verset 10. Nous honorons la saine doctrine. C'est ce que dit la fin du verset 10. Un véritable chrétien, il est soucieux de connaître la parole. C'est important pour vous de connaître la parole, de savoir ce que Dieu a à vous dire, à vous rappeler, à vous enseigner. Tite, chapitre 2, verset 11. Regardez bien ce verset. La grâce de Dieu. Si vous deviez donner une définition, vous, de la grâce de Dieu, qu'est-ce que vous écririez? Eh bien, regardez une définition certainement la plus correcte. Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Vous êtes d'accord? Regardez ce qu'elle nous enseigne. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est le sujet de nos dernières réunions. En attendant, la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc, la grâce de Dieu nous enseigne, d'un côté, à renoncer à l'impiété et bien sûr, à développer une véritable piété. Nous avions terminé dimanche avec ce texte où Paul, justement, indique que malgré toutes les révélations qu'il a reçues, il a appris. Dans Philippiens, chapitre 4 et au verset 11, l'apôtre Paul est en prison, mais il est dans une joie. D'ailleurs, lisez cet épître, le mot joie et le mot réjouir vient je ne sais combien de fois. Il est dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il est dans la volonté de Dieu. Est-ce que c'est important pour vous? Oui, c'est important d'être dans la volonté de Dieu. Regardez ce qu'il dit à ces chrétiens. Je répète, il est en prison, il est dans la grâce. Philippiens 4, verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Regardez le résultat. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, gardez cette page. Allez un petit peu plus loin. Dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 6 et au verset 6. 1 Timothée, chapitre 6, verset 6. Ce sont des versets que je vous encourage à méditer dans vos cultes personnels. Car vous allez voir par l'explication de ce soir que c'est d'un grand secours. 1 Timothée chapitre 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Vous pouvez garder aussi cette page parce qu'on y reviendra tout à l'heure. Vous savez ce que Jésus a dit lorsqu'il a fait une invitation à tout le monde. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Vous vous rappelez? Il ajoute d'abord, recevez mes instructions, ou apprenez de moi dans la version Darby, apprenez de moi, recevez mes instructions, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le joug dépend uniquement des instructions. Le joug, vous le savez, c'est une pièce de bois qui fait que deux bêtes sont attelées ensemble pour travailler. Si Jésus dit « prenez mon joug », ça veut dire « à côté de moi », le joug, c'est donc le symbole du travail, du service, est le symbole de l'unité. Beaucoup de chrétiens ne sont jamais rentrés dans le repos parce que leur cœur est endurci. Ils n'arrivent pas à obéir. Ce matin, je lisais l'histoire de Pharaon en Égypte. Et vous savez, on va y aller quand même. J'aimerais lire avec vous un ou deux versets. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 7, regardez bien, parce que je crois qu'il n'y a pas que Pharaon qui s'endurcit. Dans l'Exode, au chapitre 7, et au verset 13, alors ça revient souvent, mais quand même, c'est un verset que l'on pourrait quand même, c'est dans l'introduction, avant de parler du contentement, combien de chrétiens n'arrivent pas à connaître ce joug doux, léger, cette paix? Pourtant, c'est la volonté de Dieu qu'on soit dans la paix. Exode 7, verset 13. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Et bien sûr, et il n'écouta point. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Au verset 14, l'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Et le résultat, c'est que c'est un peu après, que même le cœur de ses serviteurs s'endurcit. Au verset 34 du chapitre 9, ça revient souvent, ça revient très souvent. Vous savez, quand on s'endurcit, on peut endurcir les autres. Vous le savez que quelqu'un de dur, il peut communiquer la dureté aux autres? Regardez, Exode 9, 34, Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les coups de tonnerre avaient cessé, continuait de pécher, il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Vous savez, on a vite fait, si on est dur, d'endurcir les autres. Moi, j'ai connu des pasteurs qui avaient de l'amertume dans le cœur. Au bout de quelques années, toute l'église était pleine d'amertume. C'est incroyable comment on peut engendrer, comme dit la Bible, selon son espèce. Donc Dieu pose la question, Exode 10, verset 3. Alors j'aimerais que vraiment nous... C'est l'introduction, mais quand même qu'on réfléchisse. Si vous n'arrivez pas à rentrer dans le repos, Dieu pourrait vous poser la même question. Exode 10, verset 3, Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi ?» Alors, franchement, mes frères et sœurs, est-ce que cette question, Dieu ne la pose qu'à Pharaon, ou est-ce qu'il pourrait la poser aussi à ses enfants ? Répondez-moi, franchement. Mais bien sûr, Dieu pourrait poser cette question à n'importe quel de ses enfants. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier? Vous vous rappelez Belshazzar qui faisait le malin parce que monsieur était roi et Daniel lui a dit, mais tu n'as pas humilié ton cœur. Tu savais toutes ces choses et tu n'as pas humilié ton cœur. Il connaissait même pas Daniel, il n'était pas du tout intéressé. Et mes frères et sœurs, quel dommage, quel dommage, quel dommage. D'avoir dans la parole de Dieu des textes, d'autant plus que ce sont des textes qui nous permettront d'être debout. Monsieur de Dieu, dans sa prière tout à l'heure, faisait allusion à ce texte de Jésus, cette prophétie, à cause de l'iniquité. Qu'est-ce qui est écrit? L'amour du plus grand nombre, c'est une prophétie, se refroidira à cause du péché, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Pourquoi? Mais parce que les gens, ils n'écoutent pas. Bien sûr, vous allez me dire, mais Pharaon, il était contre Dieu. Mais c'est... D'accord. Mais si quelqu'un est contre Dieu qui s'endurcit, à la limite, moi, ça ne me gêne pas. Mais le problème, c'est quand les chrétiens s'endurcissent. Ceux qui sont du côté de Dieu. Vous comprenez? Et c'est dommage, parce que quand vous voyez les textes que nous avons lus, la piété qui nous enseigne, pardon, à nous éloigner, la piété qui nous, la grâce qui nous enseigne ce qu'est une vraie piété. Quel dommage de ne pas vivre dans ce repos. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Bien sûr que le diable, il fait tout ce qu'il peut pour nous aveugler. Mais mes frères et sœurs, on pourrait lire encore un autre texte dans l'Exode, tant qu'on y est. Mais Exode 6, quand Dieu parle, vous rendez compte, Dieu envoie Moïse. Et regardez, et c'est vrai que les temps sont difficiles. Est-ce que les temps sont difficiles? Oui. Est-ce que les temps seront de plus en plus difficiles? Oui. Regardez ce qui est écrit dans Exode au chapitre 6 et au verset 9. Et ça, je crois que c'est le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Exode 6, verset 9. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Regardez bien la suite. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Vous ne trouvez pas que c'est dommage? Et combien de chrétiens n'écoutent pas? Ils entendent, ils voudraient, ils aimeraient, parce qu'ils croient en Dieu. Mais quand on commence par des comportements, des angoisses, des frustrations à ne plus écouter, ne nous étonnons pas d'être malheureux. Dans le livre des Juges, il est souvent écrit, ils étaient malheureux. Israël fut malheureux. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils n'écoutaient pas. On a lu en introduction dimanche ce verset, demeure dans les choses que tu as apprises. Qu'est-ce que vous avez appris depuis que vous êtes chrétien? Est-ce que vous pourriez mettre sur un papier tout ce que vous avez écrit? Il y aurait beaucoup de choses ou peu de choses? Soyez honnête, ça prendrait, même si vous écrivez gros, ça prendrait combien de pages? Vous avez appris beaucoup de choses? Hein? C'est beau quand on pourrait écrire, il y a des chrétiens, ils ne pourraient pas écrire grand-chose. Ils n'apprennent pas. Apprendre le contentement. Vous rendez compte, Paul est en prison. Il se réjouit. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, je me réjouis. Lisez l'épître aux Philippiens. Et en plus, il dit, lui, l'homme qui reçoit des révélations, en veux-tu, en voilà. Il dit, j'ai appris. Quelle humilité. J'ai appris à être content. Il a écrit à son pasteur, à un jeune pasteur, c'est une grande source de gain que la piété et le contentement. Alors, vous êtes comme moi, je pense. Vous désirez apprendre. Vous désirez apprendre d'une manière pratique, pas d'une manière théologique. Que ça se concrétise. Et vous comprenez bien qu'on ne va pas apprendre le contentement avec la méthode Coué. Vous savez ce que c'est la méthode Coué? Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? Je répète. Je répète. Vous voyez, je suis content. Je suis content, je suis content. Content, je suis content. Voilà, ça va marcher. Ça s'appelle la méthode Coué. Il y en a, ils le conseillent. Quand vous avez mal aux dents, j'ai pas mal aux dents. Bon, ça marche quand on n'a pas mal aux dents. Mais mes frères et sœurs, il y a des psychologues qui enseignent la méthode Coué. Et il y a des chrétiens qui fonctionnent comme ça. Vous comprenez bien que si Paul dit j'ai appris à être content, ça repose sur des comportements bibliques. Et c'est ce qu'on va voir ce soir en quelques partages. Je voudrais être, mais vraiment pratique. Vraiment pratique. Comment pouvoir vivre ma vie avec le Seigneur en apprenant la piété et le contentement, d'autant plus qu'on l'a lu, c'est une grande source de gain que la piété et le contentement. Sur quoi repose cette affaire? J'ai appris à être content. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans toutes les situations qui se présentent. Alors, premièrement, je vous demande peut-être de noter ces 6 ou 7 attitudes qui nous permettront d'apprendre à être content. Premièrement, et ça c'est important parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas du tout en accord, quelle est ma priorité? Vous savez, nos priorités en disent long sur le cœur. Quels sont mes choix? Est-ce que je connais le sermon sur la montagne quand Jésus dit, et le contexte dans lequel il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Si vous prenez des notes, franchement, je vous encourage à méditer, parce qu'il faut, je vous dis, la méthode Coué, ça ne marchera pas. Hein. Monsieur Gou, il a répété hier, il faut être content, donc je suis content, non, ça ne marchera pas longtemps. Il faut que vous soyez sérieux. Matthieu chapitre 6, versets 24 à 33, il y a tout un enseignement de Jésus qui nous en dit long sur le fait que nous devons mettre en premier le Seigneur. Ce n'est pas possible de vivre dans le contentement si Jésus n'est pas en premier dans notre vie. Mais si on entretient cette priorité, Jésus dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous le croyez, ça? Très sérieusement, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur Jésus, Dieu, qui a dit que si notre priorité, c'était de le chercher à lui, je ne parle pas de chercher la bénédiction. Beaucoup de chrétiens font leur culte personnel, mais ils le font par intérêt. Il n'est pas dit chercher votre intérêt, il n'est pas dit chercher la bénédiction, mais bien sûr que Dieu la donne. Il est dit chercher Jésus. Chercher sa présence. Et je peux vous dire, mes frères et sœurs, que si la priorité, elle est vraie, elle, dans notre cœur, Dieu le manifestera. Le contentement commence quand on développe cette priorité, le Seigneur en premier, dans ma vie. Deuxième priorité, dans Matthieu au chapitre 7, versets 7 à 11, on va le lire. Je vous ai donné le texte de Matthieu 6, moi je vous conseille de le reméditer. Peut-être que vous le connaissez par cœur, moi je le connais par cœur. Mais je peux vous dire que ce n'est pas parce qu'on connaît un texte par cœur qu'on le vit, croyez-moi. Matthieu 7, 7 à 11, c'est une autre priorité. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Qu'est-ce que ça nous enseigne, Matthieu 7, 7 à 11? Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Comment? Sincèrement, soyons, parce qu'aujourd'hui on en parlait tout à l'heure avec une sœur, on est vraiment dans le mysticisme. Les gens ne savent pas se responsabiliser. Comment vivre dans le contentement, qui est une grande bénédiction, une source de gain, si je n'ai pas confiance à Dieu? Comprenez bien, ce n'est pas en répétant « je suis content », on nous l'a appris à l'église. Non, je ne peux être dans le contentement si vraiment je comprends ce que je viens de lire. Seigneur, mais apprends-moi, je ne veux pas le chanter en boucle, apprends-moi à te faire confiance. Oui, si vous êtes passé par la croix, que vous êtes passé par la repentance, parce que quand même ce texte s'adresse à ceux qui peuvent appeler Dieu Père. Je l'ai déjà dit, est-ce que tout le monde peut appeler Dieu Père? Bien non, tout le monde peut appeler Dieu Dieu, mais il n'y a que ses enfants qui peuvent appeler Père éternel, le Seigneur. Ce texte s'adresse à ceux qui sont devenus les enfants du Seigneur, qui peuvent dire « votre Père vous donnera ce dont vous avez besoin ». Comment vivre dans le contentement si on doute, donc si on n'a pas cette véritable confiance? Mes frères et sœurs, la confiance, une vraie confiance. Il y a des gens qui croient, ils vont à l'église, ils croient. La semaine dernière, j'étais en enterrement. Le pasteur qui prêchait a posé la question à Dieu. Il a posé des questions à Dieu. Pourquoi tu as repris ce frère? Tu aurais pu encore l'utiliser pendant 10 ans. Vous voyez, comme si Dieu ne savait pas quand est-ce qu'il doit reprendre quelqu'un. Mes frères et sœurs, j'ai trouvé ça... Qu'un chrétien pense ça. Mes frères et sœurs, quand Dieu reprend quelqu'un, il sait quand est-ce qu'il doit le reprendre. Et s'il a encore besoin de lui, il le garde. Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est pour ça qu'on est dans des églises avec une légèreté. Dieu, il règne. Il sait ce dont vous avez besoin. Vous pourrez vivre dans le contentement si vous avez vraiment confiance à Dieu. Troisièmement, la vie est faite de repos, mais la vie est faite de combats. D'accord? Vous le savez? D'épreuves, de jours difficiles, de désirs. Alors, il y a les bons désirs, mais sincèrement... Est-ce que la vie n'est pas faite aussi de mauvais désirs? Soyons honnêtes. Ça peut arriver d'avoir de mauvais désirs? Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? On va le lire dans Jacques, chapitre 1er. Croyez-moi, j'ai failli passer cette prédication outre et j'ai compris qu'il fallait que je m'arrête sur des comportements qui produisent le contentement. Dans Jacques, il nous est rappelé quelque chose de très important. Ça favorise le contentement. Jacques, alors, chapitre 1er. Vous aimez qu'on vous trompe? Est-ce que vous aimez que quelqu'un vous mente? Vous aimez? Vous appréciez quand quelqu'un ne vous a pas dit la vérité, qu'il vous a joué une entourloupe? Mais est-ce que vous savez que vous-même, vous pouvez vous tromper par de faux raisonnements? Dans ce texte de Jacques, chapitre 1, verset 16 à 26, Il est parlé à trois reprises que nous pouvons nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. Alors Jacques chapitre 1 verset 16, « Ne vous trompez pas mes frères bien-aimés, ne vous trompez pas. » Donc ça veut dire qu'un chrétien, si spirituel qu'il soit, il peut se tromper. Toute grâce, je le relis lentement, toute grâce excellente, c'est pas des grâces, vous voyez, c'est excellente, l'excellence, et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et vous avez vu au verset 19, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter l'un à parler. Souvent c'est l'inverse, on est rapide pour parler, mais pas rapide à écouter. Vous êtes d'accord? Bon. La vie est faite de combats. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que toute grâce, tout don, c'est Dieu qui les accorde. Vous le croyez, frères et sœurs? Alors ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Ne commencez pas à dire « Oui, mais on m'a oublié. Oh, là où je travaille, on m'a mis de côté. Ils n'ont pas vu que j'étais meilleur que l'autre qui a eu le poste. » Ne vous comparez pas, ne râlez pas parce que vous n'avez pas eu le poste que l'autre a eu, etc., etc. Ne vous trompez pas, ne cherchez pas à obtenir des choses dont vous n'avez peut-être pas besoin. Comment vivre dans le contentement si je suis tout le temps en train de râler de par rapport à « je n'ai pas obtenu cette grâce ». Je n'ai pas encore obtenu ce don. Si c'est un manque de foi, eh bien, comme on l'a lu avant. Je fais confiance, je demande. Seigneur, moi j'aimerais, j'aspire au don spirituel. Est-ce que c'est bien d'aspirer au don spirituel? Oui, eh bien, aspirez-y. Nous avons lu dimanche dans les Proverbes au chapitre 8 que n'importe qui peut apprendre à être intelligent. Même les stupides. C'est écrit, vous ne trouvez pas ça merveilleux? Moi ça me fait du bien, ça, vous voyez, moi ça m'encourage. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Ça ne vous fait pas du bien? Parce que vous vous sentez très intelligent? Ça, à des moments où vous ne vous sentez pas, ça vous est jamais vu, ça vous est jamais venu à l'idée de dire à Dieu, Seigneur, tu vois comment je ne vaux rien. Ça, vous ne l'avez jamais dit à Dieu, ça? Vous ne l'avez jamais dit? Il n'y a que moi qui le dis. Mais moi, quand je lis ça, ça me fait du bien. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Tout le monde peut apprendre, mais comment vivre dans le contentement? Parce que c'est vrai que c'est facile. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Allez hop, c'est fini. Non, 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 non. Ça repose, comme tous les préceptes bibliques, sur une attitude de cœur. Il y a vraiment cette intelligence, ce discernement. Dieu ne se trompe pas. Toute grâce, tout don viennent de Dieu. Et si ça, j'en ai pas besoin, je sais bien, le Seigneur, il le sait mieux que moi. Donc il ne me le donnera pas. Eh bien, que son nom soit béni. Si Dieu ne m'a pas encore accordé cette grâce, pourquoi je râlerai? Si Dieu ne me l'a pas accordé, c'est parce que je ne suis peut-être pas prêt à la gérer. Vous lui faites vraiment confiance? Les jeunes, pour le mariage, c'est un sujet douloureux. C'est un sujet difficile. Vous croyez sincèrement que Dieu n'est pas capable de vous donner le conjoint dont vous avez besoin? Vous croyez que Dieu il s'amuse avec votre célibat? Vous croyez que Dieu ça lui fait plaisir? Non, mais vous pensez que Dieu joue avec nous? Mais peut-être qu'il y a des choses que je dois apprendre. Alors Seigneur, je serai dans le contentement. Je crois que toute grâce, tout don, vient de toi. C'est impossible de vivre dans le contentement si on n'a pas appris ces choses. Mes frères et sœurs, c'est sérieux. N'essayons pas d'obtenir ce dont nous n'avons pas besoin. Il y a des gens qui se sont, on va le voir, fourvoyés, qui sont tombés dans plein de pièges, pernicieux comme dit la Bible, parce qu'ils ont voulu par exemple obtenir des choses dont ils n'avaient pas besoin. Pour parce que l'autre l'avait, je veux la même chose, ben, c'est pas interdit. Mais Dieu le sait, et si Dieu ferme la porte, moi je crois qu'il faudrait quand même savoir ce dont on a vraiment besoin. Oui, il y a des envies, et c'est bien d'avoir des envies. Est-ce que Dieu peut répondre à nos désirs? Est-ce que Dieu s'occupe que de nos besoins? Est-ce que Dieu peut s'occuper aussi de nos désirs? Bien sûr, mais mes frères et sœurs, c'est Dieu qui bénit. Et quand vous vous êtes à genoux devant Dieu, faites-vous ce plaisir de lui faire vraiment confiance. Oui, j'aspire à tel don, parce que les églises ont besoin que les chrétiens exercent les dons spirituels. Parfois, on entend des gens, oui, c'est toujours les mêmes qui prophétisent. Eh bien, mettez-vous-y. Vous voyez, parce qu'il y a des gens qui sont très, très, très forts pour analyser. Mais moi, je crois que tout le monde pourrait exercer les dons spirituels. Toute une église peut être baptisée du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, la méthode Coué, ça ne marchera pas, je vous le dis. La seule méthode qui marche, c'est apprenez de moi. Recevez mes instructions. Car mon joug est doux. Oui, il y a un joug, il est doux. Je dois marcher à côté de lui. Comment je marche à côté de lui si je ne comprends pas ces choses? Pourquoi tant de chrétiens ont rétrogradé? Parce qu'ils ne marchent pas dans les voies de Dieu. Quatrièmement, on va lire un texte. Alors on va lire dans Job. C'est bien de lire dans Job. Il y a plusieurs textes, mais j'ai pris celui-là parce que c'est un des plus forts. Job chapitre 1er, verset 21. La vie, on ne comprend pas tout. Mais il y a suffisamment de textes dans la Bible pour apprendre à bien vivre. Job chapitre 1er, verset 21. Il a traversé une très, 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 très grosse épreuve. Sa femme ne va pas être là pour l'aider. Parce que des fois, il faut faire attention. Même si les gens qui sont là pour nous aider, ils peuvent... Est-ce que quelqu'un peut être fatigué qui est à côté de nous? Est-ce que notre femme peut être fatiguée? Est-ce que notre mari peut être fatigué? Oui. Et dans cette affaire, Job a eu une communion avec Dieu qui l'a énormément, énormément soutenu. Mais regardez ce qu'il dit. « Je suis sorti nu du sein de ma mère. » Et nu, je retournerai dans le sein de ma mère. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Dans 1 Timothée, au chapitre 6, nous avons lu tout à l'heure, mais nous allons lire la suite. Dans 1 Timothée, au chapitre 6, nous avions lu le verset 6, mais nous allons lire la suite qui correspond à ce texte de Job. Il ne faut pas oublier, mes frères et sœurs, que nous sommes que de passage sur la terre. Vous le savez, il y a des gens, ils vivent, on a l'impression qu'ils vont vivre 3 ou 4 siècles. C'est pas vrai, il y a des gens, vous parlez avec eux, vous avez l'impression qu'ils vont vivre au moins 300 ou 400 ans, vu les projets qu'ils font. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre, que de passage. Et c'est ce que nous dit Job, et c'est ce que nous dit Paul. 1 Timothée chapitre 6. Verset 6, nous avons lu le verset qui nous intéresse. Je vous ai tout le temps dit que pour bien comprendre un texte, il faut lire le contexte. Il dit la même chose, différemment, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien remporter. Si donc, nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés. Donc vous voyez qu'il y a de mauvais désirs. Et pernicieux. Oui, il y en a des qualificatifs. Qui plongent les hommes où? Dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Vous connaissez la suite, vous la lirez. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Donc nous sommes étrangers sur la terre. Qu'est-ce que nous enseigne Job? Qu'est-ce que nous enseigne Paul dans ce texte? Que nous devons relativiser. Il y a des choses, si on les a, merci Seigneur. Et si les autres, on les a pas, c'est pas grave. Si nous avons la nourriture, le vêtement, le logement, dira Jésus, pour prendre, il en parle aussi. Je sais pas, est-ce que vous avez un logement? Est-ce que vous avez de la nourriture? Pour peu que vous ayez en plus quelques réserves dans le congélateur. Si vous avez des vêtements, pour peu que nous en ayons plusieurs. Je crois que c'est une bénédiction. Pour vous rassurer, je dis mal le mot, pour vous éclairer, sachez que toutes les 20 secondes sur Terre, il y a un enfant qui meurt de faim. toutes les 30 secondes, il y a un enfant qui meurt de froid. Je ne sais pas si ça vous éclaire. Il y a des gens qui n'auront jamais l'argent pour acheter une couverture, ils vont mourir. Peut-être que vous avez 3-4 couvertures dans le placard, oui ou non ? C'est une grâce, oui ou non ? Ça ne veut pas dire qu'avec le conseil, on ne va pas s'appliquer à envoyer des couvertures si on nous en demande. Mais mes frères et sœurs, quand on lit, j'ai appris, et c'est quand même, c'est pas n'importe qui parle, j'ai appris à être content, ça repose sur cette faveur. Oui, je suis de passage, Dieu peut me reprendre ce soir, j'ai le logement, merci Seigneur. Il y a des, je ne sais pas combien de SDF il y a en France, il y en a, ils l'ont bien cherché, mais il y a quand même des gens qui sont à la rue. Si vous avez le logement, si vous avez un peu de réserve de nourriture à la maison, si vous avez des vêtements et quelques, et pour peu que vous ayez pas mal de vêtements de rechange, c'est une grâce. Gloire à Dieu. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Alors le cinquième point, c'est, mais quels sont nos véritables besoins, puisque vous avez vu, verset 9, quand même c'est, moi ça me fait réfléchir ça, parce qu'on sait qu'il y a des rétrogrades dans l'église, dans nos églises à cause de ça, ceux qui veulent s'enrichir. Est-ce que Dieu peut vous enrichir ? Est-ce que Dieu peut enrichir quelqu'un ? Vous avez vu Abraham, Lot, Job, c'est déjà ils ont eu une fortune, c'est, on ne pouvait même pas compter l'or et l'argent qu'ils avaient, David. Mais c'est pas un problème que vous ayez de l'abondance ou même des réserves. Est-ce que la loi des réserves, elle est biblique ? Est-ce que c'est biblique d'avoir des réserves ? Oui, c'est biblique. C'est une grande loi, la réserve. Il y a des gens, au nom de la foi, ils ne veulent pas mettre de l'argent de côté. Je crois que c'est pas forcément la meilleure chose, parce que c'est bien d'avoir un peu de réserve. C'est biblique, écoute, c'est pas moi qui l'invente. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés ou des désirs pernicieux. Et mes frères et sœurs, quels sont nos véritables besoins ? Quels sont nos désirs ? Puisqu'il Dieu accomplit les désirs de ceux qui le craignent, fait de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça revient plusieurs fois, ce que désirent les justes, Dieu le leur accorde. Dieu s'occupe de nos désirs. Mais ce texte nous dit aussi qu'il y a des désirs pernicieux. Donc il y a de mauvais désirs. Et que ceux qui entretiennent des mauvais désirs, et bien c'est écrit, ils tomberont dans la ruine, dans le tourment, dans la perdition. En fait, ce n'est pas bon signe. Je ne sais pas quelle idée vous faites. Il y a des gens qui disent, mais non, ça n'a rien à voir avec le salut, tout ça. Mais en fait, moi, quand j'entends parler de ruine, de perdition, je ne vois pas beaucoup la gloire de Dieu là-dedans. Donc, on comprend pourquoi tant de chrétiens ont été rétrogradés. C'est qu'ils n'ont pas su mettre au pied du Seigneur leurs désirs. Et je vous pose la question, je nous pose la question. Mes frères, mes sœurs, les désirs de nos cœurs sont-ils sains, S-A-I-N-S, ou sont-ils mauvais ? Parce que je ne vois pas comment quelqu'un pourrait être content s'il entretient toujours des désirs qui le mettent en vrac. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Alléluia. Vous le croyez, ça ? Comment quelqu'un peut-il être dans le contentement s'il se met à douter de ça ? Ne cherchons pas plus que Dieu veut nous donner. Si Dieu veut vous donner de la richesse, eh bien, il vous la donnera. Si Dieu ne veut pas vous la donner, eh bien, ne cherchez pas à l'avoir. Mes frères et sœurs, on pourrait comparer un Timothée 6 là, au texte de Matthieu 6, 25, justement. C'est les mêmes textes. Mais confondre nos besoins, parce qu'on a des besoins. Là, les besoins, il y en a. On en a parlé, du logement, la nourriture, les vêtements, ou des besoins même affectifs. Mais confondre nos besoins légitimes avec nos désirs mauvais, ou alors, pour reprendre le texte, les désirs pernicieux, insensés, qui n'ont aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je vais désirer quelque chose. Imaginez, je désirerais gagner beaucoup d'argent. Est-ce que Dieu sait si on me donnait, je sais pas moi, 500 000 euros? Est-ce que Dieu sait si cet argent me serait nuisible? Bien sûr que moi, dans ma tête très intelligente, si j'ai 500 000 euros, mais je donnerai la dîme à Dieu, à l'Église. Et le reste, je l'utiliserai. Oui, tu parles. Écoutez-moi, Dieu, il n'y a que Dieu qui sait. Et ce texte nous en dit long quand même, je ne sais pas moi, si on prenait le temps d'apprendre, à écouter. Vous avez vu, les angoisses les empêchèrent d'écouter Moïse. En plus, c'était Moïse qui parlait. Ils n'ont rien écouté. Ils ne comprenaient pas parce qu'il y avait des épreuves et ça ne tournait pas comme eux, ils auraient aimé que ça tourne. Mes frères et sœurs, ça ne tourne pas peut-être comme vous voudrez. Mais vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu, votre Père. Si vous êtes passé par la croix, si vous êtes passé par la conversion, par la repentance, par le baptême, si vous avez pris cet engagement de dire « Seigneur, tu es mon Dieu, mon Sauveur, mon Père », eh bien Dieu s'est engagé, il s'est engagé à s'occuper de vous, de tous vos besoins. Mais écoutez, si le texte nous dit qu'il y a des désirs insensés, peut-être nous pourrions demander à Dieu « Seigneur, ce désir que j'ai, est-il sain ?» Est-il insensé? Sixièmement, entretenir la dépendance de Dieu. Parce que c'est une chose de dépendre de Dieu dans une réunion. Ça n'est une autre de toujours dépendre de Dieu. On l'a vu, l'amour de l'argent. Qu'est-ce que ça fait naître, l'amour de l'argent? Qu'est-ce que ça fait naître? Eh bien, on l'a lu, l'orgueil. L'amour de l'argent, c'est la racine de... tous les mots, donc on pourrait en ajouter, on pourrait mettre. Regardez avec moi dans Deutéronome chapitre 8. La dépendance de Dieu. La dépendance de Dieu, vous savez, il y a des gens qui sont à toutes les réunions et qui n'ont jamais été dépendants de Dieu. Deutéronome chapitre 8, verset 12. Dieu peut nous rassasier, Dieu peut nous bénir. On va lire à partir du verset 10. C'est très important, mes frères et sœurs, parce que l'argent, la bénédiction... L'abondance, Dieu peut le donner. S'il freine, il y a une raison. Mais regardez ce qu'il dit dans Deutéronome, chapitre 8, au verset 10. Pardon. Alors, il faudrait lire le contexte, mais bon, on ne peut pas tout lire. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Là, il recommence. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Peut-être que Dieu vous a donné une belle maison. Oui, il vous a donné une belle maison. Non, il n'y a personne qui a une belle maison ici. Est-ce que c'est une bénédiction? Bien sûr. Lorsque tu habiteras de belles maisons. Donc, vous voyez bien que Dieu n'est pas contre. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, c'est à toi, Dieu te le donne. Prends garde que ton cœur ne s'enfle, vous voyez, il n'y a pas que dans le Nouveau Testament, hein, et que tu oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, et que tu te détournes de Dieu. Donc, vous voyez, Dieu sait. Si vous dépendez de Dieu, que vous ayez une belle maison ou un simple appartement, que vous ayez une maison ou que vous en ayez 10, ça ne changera rien. Le problème, c'est que je dépends de Dieu. C'est comme quand je suis... Il y a des gens, quand ils sont malades, ils dépendent autant de Dieu que quand ils sont en bonne santé. Il y a des gens, quand ils sont malades, ils sont toujours à l'église. Quand ils sont en bonne santé, ils ne viennent jamais à l'église. Pourquoi? Vous croyez que j'exagère? Et est-ce que vous dépendez de Dieu que quand vous êtes malade? Et pourtant, il y en a, je vous assure, ça, on en revient au même. Il faut dépendre de Dieu tout le temps. C'est quelqu'un qui dépend de Dieu et qui dit, voilà, ben, tu m'as donné une belle maison, le patron m'a doublé le salaire. Moi, c'est déjà arrivé, j'ai entendu ça. Des gens qui ont dit, on m'a doublé le salaire. C'est bien, c'est une idée, le conseil que vous pourriez méditer. Mais mes frères et sœurs, dépendez de Dieu. Que votre salaire augmente, que votre salaire descende, dépendez de Dieu. Et pour terminer, dans Philippiens chapitre 4, 19, même si on a lu le début, on n'a pas lu le verset 19, j'aimerais quand même que vous compreniez que quelqu'un qui vit dans le contentement, qui a appris Je vous rappelle, c'est ce qu'on a exactement fait ce soir. Si nous sommes sérieux avec Dieu, Seigneur, je reçois tes instructions, j'apprends tes exhortations. La septième, elle est là. Paul dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Alléluia. Quand même, c'est pas beau de lire ça. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Alors quand même, pour être très honnête, je crois qu'il faut être, il faut pas prendre ce verset comme une promesse inconditionnelle. On voit cette église, au verset 16, parce qu'il faut tenir du contexte, compte du contexte, c'est une église qui a été généreuse. Vous avez vu le verset 16, « Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. » Et quand un chrétien se donne, la vraie piété, on l'a vu dimanche, elle est utile. Je me rends utile. Dans les Thessaloniens, les Philippiens, quand Paul était à Thessalonique, il avait des besoins, il a dû leur écrire, hop, ça, ils ont été les seuls à le faire. C'est bien, on reçoit des fois des demandes, clac, il y a une église, ah, on envoie des sous. Les Philippiens, ils ont pourvu aux besoins de Paul. C'est pas étonnant que Dieu leur dise, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Parce que ce sont des lois. Et je vous encourage à méditer ces sept comportements qui feront que nous aussi, malgré les temps difficiles, malgré l'iniquité qui grandit et qui affecte les églises, malgré l'apostasie qui s'installe partout dans le corps de Christ et qui affecte les assemblées, eh bien nous pourrons, nous aussi, dire « c'est une grande source de gain que la piété et le contentement ». Quel témoignage merveilleux lorsqu'un chrétien vit dans le contentement. Vous ne croyez pas? Peut-être que vous râlez beaucoup. Eh bien, cette prédication, elle était pour vous. Peut-être que vous vous plaignez tout le temps. Cette exhortation, elle était pour vous. Peut-être que vous avez de mauvais désirs. Cette prédication, elle était pour vous. Eh bien, prenons ça au sérieux. Et appliquons-nous. Peut-être que vous avez pris des notes. Eh bien, vous dites, bon, mais je vais m'y atteler. Je vais vraiment développer ces états d'âme, cet état de cœur. Pardon. Je vais le faire et je crois pouvoir dire qu'au jour où nous comparaîtrons devant Dieu, nous serons heureux que Dieu nous dise, oui, toi aussi, tu étais content de ce que tu avais. Tu vivais dans le contentement. Il y a des gens qui râlent toujours. Quel témoignage pour nos enfants, pour nos jeunes. Vous vous rendez compte, un gars qui découvre l'évangile, il arrive, il discute avec trois chrétiens, toujours en train de râler, parce que l'essence a augmenté. En train de râler, parce que les retraites aussi. Mes frères et sœurs, notre Dieu, c'est votre Père. Il pourvoira à tous vos besoins. Alors demandons à Dieu de ne pas avoir des désirs inutiles. Car toute grâce et tout don sont donnés par le Seigneur. Et si quelqu'un oubliait de vous les donner, croyez bien que Dieu, lui, n'oubliera pas. Ça peut arriver que Dieu permette que quelqu'un nous ignore. Demandez à Joseph, je crois qu'il ne l'a pas regretté. Quelqu'un vous oublie, ce n'est pas grave. Dieu, lui, il ne vous oubliera pas. On lui demande de l'aide. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on lui demande de l'aide pour glorifier son nom? Dans une église où tout le monde développerait cette vertu, laissez-moi vous dire qu'on n'y perdrait pas grand-chose. Vous vous rappelez comment Jésus a été exaucé? Il a été exaucé à cause de sa piété. Ça vaut la peine de méditer le sujet. Nous te bénissons, Seigneur. Nous pensons à tes paroles où tu as dit que tu nous avais tout annoncé à l'avance. Nous t'en sommes reconnaissants, Seigneur, et nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous t'avons demandé des révélations, alors que tu souhaitais d'abord nous apprendre ces choses par le biais des frères. Nous voulons nous aussi te remercier pour le logement, pour la nourriture et pour les vêtements. Vraiment, Seigneur. Nous voulons te demander ton aide pour que notre témoignage te glorifie, tout en sachant que si tu veux nous accorder tel ou tel don, telle ou telle grâce, telle ou telle faveur, c'est toi qui les accordes. Apprends-nous, Seigneur, oui, à avoir ce témoignage qui te glorifiera. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.